qui ont mené à la collision.
Charles-Éric Lamarche est expert en aviation. Salut Charles-Éric.
Hey, bon matin.
Très content de te jaser. Malgré le fait qu'on se parle tout le temps quand il y a des tragédies, maintenant on se parlera et ce sera pour des bonnes nouvelles.
Ben oui, absolument. Écoute, tu me fais de la place quand j'ai besoin de faire des bonnes nouvelles, c'est parfait, merci.
Ben oui. Ben faut être là pour ça aussi. Est-ce que c'est passé là à New York? C'est très rare que ça arrive dans le monde de l'aviation. Puis à chaque fois qu'il arrive ce genre d'accident-là, il y a des gens qui vont dire « c'est dangereux l'avion ». Mais juste rappeler qu'encore à ce jour, il y a plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion dans le monde. Là. Donc c'est très sécuritaire l'avion, là.
Ben oui, c'est toujours le moyen de transport le plus sécuritaire au monde. Puis, tu sais, les gens qui y travaillent, là, peu importe, évidemment, il n'y a absolument rien de parfait dans ce beau monde. Mais ce sont des gens qui sont très consciencieux. C'est des gens qui travaillent fort, qui ont à cœur leur domaine aussi. Donc, j'ai hâte de voir les conclusions de l'enquête. Mais, tu sais, on parle souvent, présentement, ce que j'entends beaucoup, une erreur de communication. Faut pas oublier, c'est rarement un seul et même élément qui est responsable d'un accident. Tu sais, Yannick, on s'en est parlé souvent, là. La théorie du fromage suisse. Donc, on a plusieurs filets de sécurité qui sont comme des tranches de fromage suisse. Nos filets de sécurité sont pas parfaits. Il y a des trous dedans. Et là, dans l'accident qui nous concerne ici, nos trous se sont alignés. Notre procédure a passé à travers tous les filets de sécurité et on est arrivé à un accident.
Ce qu'on sait, Charles-Éric, c'est qu'à l'intérieur de la tour, il y avait plusieurs contrôleurs aériens. Mais est-ce qu'on sait si, un peu comme à Québec, ça arrive certaines fois, là, est-ce que le contrôleur aérien contrôlait au sol et dans les airs à la fois? Est-ce que c'était la même personne?
Bien là, présentement, on attend l'information, mais dans ce qu'on entend, ça semble être la même personne. Est-ce que c'est une procédure régulière à cette heure-là à LaGuardia?
Ouais.
On le sait, le triangle, il y a un triangle extrêmement occupé, là, qui est LaGuardia, Newark et JFK, les trois aéroports majeurs qui desservent la région de New York. C'est un triangle qui est extrêmement occupé, qui a besoin de beaucoup de manpower, mais comme la plupart des grands aéroports, à un certain niveau, à partir de très tard le soir, ça devient beaucoup moins occupé, souvent par des politiques de réduction de bruit et compagnie. Donc, souvent, on est capable de faire le travail à un seul contrôleur. Donc, un contrôleur qui va s'occuper des fréquences qu'on appelle la fréquence sol, donc celui qui s'occupe d'autoriser les déplacements sur les espaces de manœuvre de l'aéroport, et un contrôleur air qui, lui, s'occupe d'autoriser les décollages, les atterrissages sur les pistes et la coordination. Normalement, lorsqu'on a deux contrôleurs, c'est une coordination entre les deux contrôleurs, le contrôleur air et le contrôleur sol, pour autoriser les passages, justement, de véhicules sur une piste active. Là, est-ce qu'on avait la même personne qui s'occupait des deux fréquences? Est-ce que, si oui, est-ce que c'était régulier? Est-ce que la charge de travail était peut-être trop grande à ce moment-là? Il y a beaucoup d'éléments qui vont être enquêtés.
Ouais, dans les hypothèses, on pense que le contrôleur aérien a été un peu dérangé parce qu'il y avait un appel d'urgence qui impliquait les pompiers. On parlait d'une odeur particulière dans un avion. Donc, les pompiers devaient se déplacer sur le tarmac quand même assez rapidement. Je sais qu'ils doivent être là en 3 ou 4 minutes là, de mémoire. C'est ce que j'ai lu hier. Et peut-être qu'il aurait été dérangé par ce fait-là, là, que les pompiers devaient se rendre le plus rapidement possible à l'autre avion qui semblait en problématique, tandis que l'avion qui arrivait, elle, c'était un atterrissage normal.
Ben oui, exactement. Puis, tu sais, cette urgence-là aussi perdurait dans le temps. Ça fait quand même plusieurs longues minutes que cette urgence-là perdurait, parce que l'avion de United aussi essayait d'avoir une porte, une gate, pour aller se positionner, ramener ses passagers et pouvoir débarquer ses passagers en sécurité. C'était pas une urgence comme si on avait un feu à bord et on devait débarquer, mais quand même, c'est une urgence qui perdurait dans le temps et qui ne s'améliorait pas. Donc, le pilote de l'avion qui déclarait son urgence disait que les agents de bord sentaient une odeur, puis là, commençait à être incommodé par l'odeur qu'il y avait à bord. Donc là, le niveau de risque augmentait. Et ça faisait assez longtemps que cette période-là durait dans le temps. Donc, tout le monde voulait aller réagir rapidement, aller aider cet avion-là. Autant le contrôleur voulait amener rapidement les camions de pompiers, les pompiers voulaient se rendre rapidement. Alors, tu sais, il y a le sentiment d'urgence commençait à monter un peu. Donc, ça aussi, on va regarder ça. Tous les facteurs humains vont être analysés pour mieux comprendre et pour prendre action et mettre des recommandations pour éviter qu'un événement comme ça arrive. J'avais une rencontre avec le BST la semaine passée avec sur un congrès, le Bureau de la Sécurité des Transports du Canada, qui mentionnait encore une fois que sur sa liste de surveillance 2026, les incursions de pistes est pas mal une des grandes priorités de sa liste. On a beaucoup d'incursions de pistes qui se passent. On a plus d'avions, on a plus de véhicules qui se promènent sur les aéroports, on demande plus de services. Donc, c'est des incidents qui sont en augmentation. Et on veut comprendre pourquoi et on veut les diminuer, ce nombre d'accidents-là, ce nombre d'incursions-là, parce que c'est pas parce qu'on a une incursion qu'on a un accident. Par exemple, au Canada, en 2025, on a eu, je me rappelle bien, 639 événements qui ont été amenés pour une incursion de piste, mais de ces 639-là, un était vraiment à haut risque, donc on a évité une collision de près, et la plupart étaient une incursion de piste, où est-ce que la piste, par exemple, on n'avait pas d'avion qui était sur le point d'atterrir ou de décoller, donc il n'y a pas eu de grands risques, c'était à des moments où peut-être la vigilance est un petit peu plus basse. Donc, on a ces incidents-là à l'œil pour éviter un événement comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est grandement regardé. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui a amené nos trous de fromage à s'enligner, tous nos filets de sécurité pour éviter ça, pour qu'un accident comme ça arrive, là, ben c'est ça qu'on va regarder dans l'enquête.
Charles-Éric, j'imagine qu'on va communiquer aussi, qu'on va interroger le chauffeur du camion de pompier pour voir est-ce qu'il y a eu distraction, comment lui a vécu l'événement?
Ben oui, absolument. Puis on a la chance que ces gens-là soient en vie. Bon, ils ont été gravement blessés, mais quand même, ils sont en vie, ils vont pouvoir nous donner ce qu'ils se rappellent. Et les véhicules aussi qui étaient à l'arrière de lui, parce que on parle d'un camion de pompier, mais ils étaient plusieurs à se rendre sur l'événement. Les autres ont réussi à arrêter. Est-ce qu'eux l'ont vu à temps? Est-ce qu'eux, ils ont entendu la commande d'arrêter? Donc, c'est tout ça qu'on va regarder là et comprendre pourquoi ce véhicule-là a traversé à ce moment-là, malgré que le contrôleur se rétractait sur la commande qu'il avait donnée. Alors, tout ça, la phraséologie aussi qu'on utilise, est-ce que c'était clair? La priorité aussi des communications. Aux États-Unis, on va donner beaucoup plus rapidement l'autorisation d'atterrir en sachant que l'espacement est respecté, par exemple, pour l'aéronef qui est devant nous, pour sortir de la piste. Comme, par exemple, dans les communications qu'on a entendues de cet événement-là, on entend l'avion de Jazz qui reçoit son autorisation d'atterrir alors qu'ils sont numéro 2. Au Canada, on donne l'autorisation d'atterrir lorsqu'on sait à 100% que la piste est libre et dégagée. Donc, on sait que l'aéronef devant nous est sorti de l'espace de sécurité qu'on garde pour la piste d'atterrissage. Donc, non seulement sorti sur le taxiway, mais vraiment sorti de l'espace de sécurité qu'on garde. C'est là qu'on va considérer donner l'autorisation d'atterrir. Aux États-Unis, on donne l'autorisation beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est une procédure qui est à changer? Ça aussi, c'est à regarder. Donc, c'est tout ça qu'on va aller regarder. Ouais. On va aller tout scruter jusqu'à la formation de base des contrôleurs.
Charles-Éric Lamarche, mon expérience à l'intérieur d'une tour de contrôle est assez limitée, là, mais au départ, avant de visiter la tour de contrôle de la ville de Québec à l'aéroport international Jean Lesage, je pensais que ces gars-là, ils étaient debout avec branchés sur la machine à café, tel un soluté dans les veines. Ils se criaient après. Ils étaient hyper, hyper alertes et hyper nerveux. Finalement, je suis rentré là, puis j'avais l'impression d'être dans une bibliothèque tellement que c'était tranquille. Je me suis dit, coudon, tout le monde est sa tisane. C'est quoi les corps de travail de ces contrôleurs aériens-là au Québec, au Canada, aux États-Unis? C'est-tu à peu près les mêmes règles? Ils doivent se relayer au combien de temps, à peu près?
Bien, tout dépendant de l'environnement de travail, tout dépendant de la charge de travail. Comme je disais tantôt, l'espace aérien de New York, qui est un espace aérien qui est extrêmement utilisé, donc qui est à la limite surutilisé. Là, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Vous avez, par exemple, les contrôleurs terminales, eux, qui s'occupent du contrôle radar, donc qui s'arrangent d'aligner les appareils avec le bon espacement sur les départs, sur les arrivées. Eux, je vous garantis, leur charge de travail est pas mal plus grande et le niveau de stress aussi est pas mal plus grand parce qu'ils veulent rendre le trafic sécuritaire, mais aussi le plus fluide possible. Donc, souvent, et on va parler, là, une heure de travail, une heure de repos, c'est souvent un ratio comme ça, là, un pour un. Dans des espaces aériens où c'est un peu moins occupé, on va parler de, par exemple, un tiers. Donc, pour, admettons, 3 heures de travail, on va avoir 1 heure de repos. Des ratios dans ce genre-là. Là.
OK. Mais donc, dans un aéroport,
tout dépendant de la charge de travail.
Comme JFK, tu travailles 60 minutes, tu te reposes 60 minutes, tu travailles 60 minutes, tu te reposes 60 minutes.
Oui, c'est souvent la norme.
Ben, les gars doivent être extrêmement concentrés, là, c'est normal. Le gars, il est fait. Il est arrivé un petit miracle. Là. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Puis en même temps, on n'a pas toute l'information. Mais qu'est-ce qui fait qu'une agente de bord qui était adossée à la cabine de pilotage, donc au cockpit, qu'est-ce qui fait que l'agente de bord qui était attachée s'est ramassée à l'extérieur de l'avion, 100 mètres plus loin, encore attachée, encore sur son siège, et cette femme-là a survécu? C'est hallucinant, ça.
Ça, c'est, on s'en est parlé souvent, Yannick. J'ai fait quelques chroniques avec toi que j'appelais mes petits miracles de l'aviation. Cette personne-là va absolument entrer dans ma liste. Elle a été extrêmement chanceuse. Dans sa malchance, elle a été extrêmement chanceuse, cette personne-là, parce que vous avez vu l'avant de l'appareil, ça a frappé extrêmement fort. On parle de un véhicule de pompier, c'est plusieurs tonnes, un CRJ-900 aussi, on dit que c'est un appareil régional, mais c'est un appareil qui peut contenir 90 à 100 passagers. C'est gros, là, c'est une grosse machine, puis quand ça arrive, quand ça atterrit, on tourne pas le coin de la rue dans une zone scolaire, là. Ça arrive à grande vitesse, ça a frappé extrêmement fort, et cette dame-là est extrêmement chanceuse dans sa malchance. Là, c'est un beau petit miracle pour cette dame-là, malgré les circonstances.
On a trouvé que... je lisais sur les réseaux sociaux, puis en même temps, c'est des gens qui connaissent pas ça, mais il semblait dire que l'avion avait été... était pas solide. Puis ce que j'expliquais au gars le matin, c'est que les avions sont pas faits pour des contacts frontales là, avec d'autres... que ce soit un autre véhicule ou encore un autre avion. Puis le fait, justement, qu'elle s'est écrasée, cet avion-là, sur le camion de pompiers, ça a probablement fait décélérer encore plus, un peu comme sur le même principe que les automobiles en F1. Tout va se détruire sur le véhicule, sauf l'endroit où on veut que les pilotes soient protégés. Ces avions-là sont extrêmement bien bâtis pour résister au vent et avoir une certaine flexibilité. Là.
Ces régional jets-là, anciennement de Canadair et Bombardier, maintenant c'est Mitsubishi là, qui ont racheté les brevets de ces avions-là. Mais ce sont d'excellents avions. Et effectivement, c'est un avion qui est fait pour voler dans les airs. N'oubliez pas, là, on se retrouve dans une carlingue d'alliage de métal à 35 000 pieds et on vole à plus de 800 km/h. C'est pas fait pour se trouver dans le trafic sur de la capitale.
Ouais.
Donc, c'est pas fait pour le même genre d'impact. Mais regardez, souvenez-vous, le CRJ qui s'est retrouvé un peu sur le capot à Toronto. Oui, il y a une structure de l'aile qui a arraché, mais l'autre structure de l'aile a très bien tenu et a permis probablement de sauver la donne pour plusieurs des passagers. Tout le monde s'en est sorti pratiquement indemne sur cet accident-là. Ça s'est très, très, très bien fait. Là, écoutez, vous avez un véhicule de plusieurs tonnes qui passe devant vous avec un autre véhicule à très grande vitesse qui se frappe. C'est sûr qu'il va avoir les dommages. Mais de savoir que malheureusement, il y a 2 décès. C'est ceux-là qui étaient en avant, les membres d'équipage, mais c'est tout jusqu'à maintenant. Là, c'est exceptionnel. Là. Vraiment, on est excessivement chanceux.
Jean-Léric Lamarche, toutes les boîtes ont été récupérées. Est-ce qu'on va être en mesure... Hey, c'est peut-être un peu weird de poser la question, mais est-ce qu'on va être en mesure d'entendre ce qui s'est passé à l'intérieur de la cabine de pilotage si les gars se sont jasés, s'ils voyaient le camion s'en venir?
Ben, malheureusement, oui, on risque d'avoir cette information-là. Donc, on n'oublie pas, on a toujours 2 boîtes noires, le CVR et le FDR. Le FDR, c'est le Flight Data Recorder. Donc, on va être capable d'avoir toutes les informations de données de vol à ce moment-là, autant que toute l'instrumentation de l'appareil, tous les capteurs sont enregistrés dans cette boîte-là. On va être capable de déterminer le comportement de l'appareil à ce moment-là. Et les CVR, ce qu'on appelle les Cockpit Voice Recorder, non seulement sont là pour enregistrer, par exemple, les conversations. Oui, on entend la radio, mais on entend aussi les conversations entre les membres d'équipage dans le cockpit, mais aussi tous les sons sont analysés. Donc, par exemple, on est capable de savoir c'était quoi le régime moteur aussi en analysant les sons.
Ah oui.
Ce ne serait pas surprenant qu'on ait une bonne idée de la force qui était appliquée sur les freins, oui, par le Flight Data Recorder, mais par le CVR aussi en entendant les bruits qu'on va être capable de détecter dans la cabine. Donc, il y a un paquet de micros dans la cabine qui nous permet d'aller chercher beaucoup plus que seulement ce qui se dit à l'intérieur. Mais oui, ce qui se dit va être primordial, là, va être analysé, va être important dans l'enquête.
Ouais, puis la vitesse d'atterrissage, là, elle a été évaluée entre 170 km/h puis 215 km/h à peu près?
Oui, c'est des vitesses normales là, pour ce genre d'appareil-là. Il n'y a rien vraiment d'anormal là, à ce moment-là. Et où traversait le camion de pompier, là, c'était à peu près un petit peu avant la moitié de la piste. Donc, c'est normal que l'appareil soit à grande vitesse. Là. On n'a pas non plus appliqué les freins au début là, à pleine force. On voulait pas faire un atterrissage court ou quoi que ce soit. On a probablement réévalué, parce qu'à un certain moment, assurément qu'ils ont vu le camion passer devant eux. Même certains témoignages des passagers disent que tout d'un coup, là, le freinage a été vraiment brusque et finalement, il y a eu le contact. Là. Donc, l'enquête va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux. Alors, on risque d'avoir ces éléments-là là, avec l'enquête du Bureau de la sécurité des transports américain. Et à noter aussi que le BST canadien est en route parce que, deux choses, c'est un avion de conception canadienne et on a un transporteur canadien qui est en cause. Donc, le Bureau de la sécurité des transports du Canada sera là pour épauler les collègues du NTSB.
Charles-Éric Lamarche, toujours un plaisir.
Hey, salut, messieurs. Bonne journée.
Au revoir. Merci beaucoup. Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation. Franchement intéressant à chaque fois qu'on parle avec ce gars-là.
Ouais.
Ça n'a aucun sens à quel point il nous apprend des trucs. Là.
Exactement. Puis on comprend que la vitesse d'atterrissage est la bonne, que le camion de pompier arrive là, malheureusement, au mauvais moment. On sait qu'il y a eu 12 stops de dit par le contrôleur routier.
Tu sais, moi, il y a de l'incompréhension de ma part. Là. Quand je suis en voiture, même quand je suis sur une lumière verte, je regarde tout le temps s'il n'y a pas des véhicules s'en viennent sans arrêter. Là.
C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on va conclure à une distraction? Ça se peut. Moi, je ne l'enlève pas de la conclusion de cette enquête-là. Distraction de celui qui conduisait le camion de pompier. Il avait eu le go, il a été distrait, il n'a pas entendu les stops, il a continué, il n'a pas trop regardé, puis paf, la collision. Parce que, tu sais, honnêtement, puis je comprends, c'est un bel élément qui nous a amené, je trouve, en début d'entrevue, Charles-Éric, avec le fait que l'urgence, ça faisait quand même assez longtemps qu'elle était là et les gens commençaient à être incommodés par l'odeur dans l'avion United Airlines. Donc, ça fait en sorte que là, les pompiers disent « OK, c'est bon, on met la pédale un petit peu plus à fond puis on y va. » Alors, tu sais, il y a plein de circonstances comme ça, exact, qui amènent à cet événement tragique-là.
8h51, Max.
C'est un matin très tough à circulation. Capital Ouest, voie de desserte avant Robert Bourassa. On a reçu un texto par rapport à ça. Voie de droite partiellement travaillée par une panne. Ce que le texto nous dit, c'est que c'est très dangereux. Fait que soyez prudents dans ce secteur-là. Sinon, sur Capital Ouest, toujours des ralentissements entre Beau-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, ça s'améliore tranquillement pas vite, mais c'est encore ralenti. En Arcade Sud, hauteur Rochauve Ouest, ralentissement également. Et l'heure de pointe qui n'est pas terminée non plus là, pour l'accès aux pompiers à la porte, direction Nord, c'est toujours au rouge. Les sports.
Le Canadien de Montréal qui joue ce soir, 19h, c'est à ne pas manquer.
Les puissants Hurricanes de la Caroline qui seront en visite au Centre Bell. Les Canes qui trônent au premier rang de l'Association de l'Est. Le CH qui est au troisième rang de l'Atlantique. On ne sait pas qui sera devant le filet du tricolore. On ne sait pas non plus qui sera devant le filet des Hurricanes. Il y avait un seul match hier dans la LNH. Les Sénateurs qui ont eu le dessus 2-1 sur les pauvres Rangers qui n'ont dirigé que 9 tirs vers James Reimer. Je pense pas avoir déjà vu ça dans ma vie, 9 tirs dans un match. Dans la victoire des Sens, toutefois, Thomas Chabot a quitté le match blessé, sera absent pour un bout de temps. Ça fait excessivement mal aux Sens dans la course aux séries, particulièrement parce que Jake Sanderson, le défenseur numéro 1 de l'équipe, est déjà blessé. Devrait revenir dans les prochains matchs, mais en attendant, va être tough. Aussi dans la LNH, le 7e show au total du dernier repêchage, James Haggins qui fera le saut chez les professionnels, mais pas avec les Bruins de Boston, mais bien les Bruins de Providence a signé un essai professionnel. Il y en a qui sont surpris, là, qui acceptent de commencer dans la Ligue américaine. Mais c'est comme ça que ça va débuter pour la carrière pro de James Haggins. Et dans la NBA, victoire de 143-127 des Raptors de Toronto sur le Jazz de l'Utah.
Merci Max, on t'écoute à 10h.
Yes!
Salut!
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,